Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonsoir chers tous, bonsoir chers toutes, bienvenue dans Source, bienvenue dans la continuité du 92.1 de la bande FM, bienvenue donc dans Source, l'émission des libres, l'émission qui vous traite non pas comme des pigeons, non pas comme des clients, non pas comme des choses vendables, mercantilisables, non, vous êtes quelqu'un de bien, tous et toutes. Donc on a une énième édition qui va nous emporter quelque peu du côté du dark web. Oui, je voulais continuer encore un peu une discussion avec des camarades avant de prendre la place en studio. C'était chouette d'écouter le bon vieux jingle du Campus Info Archichep, 5 minutes 25, ça fait beaucoup. Raina Stamboliaska est une chercheuse, elle écrit un bouquin qui traite du dark web, et son intervention dans Thinkerview, que l'on peut retrouver donc sur une des chaînes de Peertube, celle-ci c'est chez wapiti.info, et bien du sextoy au dark web, on va en savoir un petit peu plus avec Raina Stamboliaska.
Malicia Rock, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir vos impressions, votre ressenti, vos recherches, tout sur votre dernier livre, sur votre expérience dans le monde d'Internet, le monde des hackers, tout ça. Alors Malicia Rock, c'est votre AK, votre also known as.
Tout à fait.
Quel est votre vrai prénom?
Raina.
Raina?
Oui. Tu veux avec l'accent qui va bien ou...
Il ne faut pas que ça commence. Hein. Pourquoi ce livre?
D'une part parce qu'on me l'a commandé, mais ce n'était pas la vraie raison en fait. C'est parce que je sentais aussi bien que d'autres personnes qu'il manquait un travail de synthèse qui regroupe justement, qui met en correspondance, qui met de manière accessible... des connaissances, on va dire, assez sophistiquées sur des sujets très actuels, à un niveau suffisamment accessible pour la sempiternelle Madame Michu, qui n'existe pas, mais quand même pour un public très large, qui ne fait pas partie du groupe des sachants de la technique qu'on connaît pas mal tous les deux.
C'est qui les sachants de l'Internet, les sachants de la technique?
Oh, bon, enfin, tu vois, tous les gars, parce qu'il y a essentiellement des gars qui ont essayé de me faire le coup. Attends, de toute façon, je vais lire ton truc et je vais te remonter toutes les erreurs. Et j'attends encore.
Qu'est-ce que... Bon, on va se tutoyer parce que sinon c'est cramé. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire des communautés de hackers? Qu'est-ce que t'en connais? Allez.
Tu veux que je doxe du monde, c'est ça?
Non, doxe personne. On doxe pas ici.
Ah bon? Ah, c'est autre chose que tu m'as promis. Bon, pardon, passons. Alors, les communautés, on va
c'est
dire...
C'est vague, hein.
Oui, bah, c'est super vague, en fait. Les communautés en France, les communautés ailleurs. Parce que, en fait, j'ai essentiellement parlé d'Anonymous, mais... Anonymous...
Ça veut tout et rien dire.
Ouais, c'est ça, en fait. J'ai essayé, si tu veux, d'expliquer un peu la généalogie, en fait, de pourquoi, aujourd'hui, certaines personnes, qu'on entend relativement souvent de manière assez vocale, ont, en fait, une relation assez intime, assez corps à corps avec l'Internet. D'où ça vient ? Et en fait, les hackers, au sens très large, sont les gens qui, pour beaucoup, sont nés avec ou sont nés de tout ce qui en fait s'est développé avec Internet.
Tu parles des piliers de Munich ?
Non. Enfin, tu parles de bière ou d'Oktoberfest ?
Les piliers de Munich, non. Bon, c'est... On reviendra à ça. Venez sur nos réseaux, on vous expliquera.
Voilà.
Est-ce que tu sens que les différentes communautés, comme la communauté de la Sécu ou de la communauté des activistes, oui, sont en train de converger et de se politiser ?
Ça a déjà été fait, en fait. Ça s'est déjà fait il y a des années. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'introduire, justement, avec Anonymous, parce qu'on a quand même vu cette politisation des geeks, au sens très large, avec notamment les premiers cas de lancement d'alerte, que ce soit les débuts de Wikileaks, les débuts médiatiques, on va dire, de Wikileaks, donc 2009-2010, et après avec les révolutions arabes et l'implication toujours croissante du collectif Anonymous, aussi protéiforme que ce soit, avec d'autres communautés plus petites ou, on va dire, moins connues du très grand public, telles que Télécomics, etc.
Des teams, pratiquement.
Oui, enfin, pour beaucoup, oui. Et là, il y a eu une vraie et très croissante, et qui persiste toujours, d'une certaine manière, politisation des geeks. Où on a en fait commencé à utiliser des outils numériques. Je ne parle pas de leur légalité. On a commencé à utiliser le numérique pour promouvoir des idées politiques, pour faire passer des messages politiques, que les messages portent loin ou pas. Voilà.
Est-ce que les services de renseignement ont cherché à instrumentaliser ou à prendre le contrôle de l'idéologie Anonymous ?
On va dire... Enfin, bon, il y a eu, je pense que les gens les plus...
L'affaire Kony, c'est ça, non ?
Oui, enfin, les gens les plus âgés, on va dire ça comme ça, sans jugement de valeur ou général... ouais, voilà, on se comprend. Sans faire des générations... On sait en fait qu'en France, il y a eu un entrisme très fort de la part des services dans les années, je sais plus, 90, lorsque certains ont essayé de lancer un équivalent français du CCC, du Chaos Computer Club. Après, ce qu'on a vu et ce que je raconte un peu avec l'ULTSEC, c'est qu'il y a eu il y a eu des informateurs internes qui ont été suffisamment bien outillés et suffisamment habiles pour parvenir en fait à renseigner les services et les forces de l'ordre sur les activités des groupes et des collectifs. Je crois qu'en France, il y a moins d'histoires récentes
si.
Après, voilà, disclaimer.
On n'a pas de sabou, c'est ça.
Mais... Voilà, on n'a pas de sabou qui fait du sabutage. Après, je préviens. Enfin, pendant les révolutions arabes, j'étais pas en France.
T'étais où ?
J'étais en Égypte et en Tunisie. Donc, du coup,
au nord, au sud ?
Oui, il faut aller.
Là où nécessité fait loi.
Je pourrais mieux le dire.
Tu travaillais pour la France ou tu travaillais comme honorable contributeur pour un autre pays ?
Pour aucun pays.
Pour le pays d'Internet ?
Voilà, et pour des ONG, pour les gens qui avaient besoin sur le terrain. Donc notamment pour des ONG en fait.
C'est Télécomics qui t'a envoyé là-bas ?
Non, mais on s'est parlé d'une manière... d'une manière assez drôle.
En 56K, c'est ça ?
C'est ça, et par fax aussi. Ouais. Et du coup, c'était très drôle parce qu'il y a la relecture du Bestiaux, là. Bref, c'est une autre histoire. Et un copain, justement, qui était un des visages de la révolution égyptienne, était à la maison. Et quand je faisais la relecture finale du livre, et du coup, on est sorti boire des bières, et du coup, je l'ai présenté des gens qui étaient anciennement avec Télécomics, et du coup, c'était la première fois qu'ils se voyaient en vrai, c'était assez rigolo.
Kullu tamam.
Kullu tamam.
Meya meya.
Meya meya, ezaya ke habibi.
Qu'est-ce que tu penses de Thor ?
Beaucoup de choses, rien de particulier.
La genèse,
ah, le fait que à la base c'était un projet de la Navy américaine. Ouais. Bah, c'était un projet de la Navy américaine, point. Enfin, depuis ça a vachement évolué. Il y a d'autres problèmes, si tu veux, que les origines d'un truc. Il y a ce qu'on en fait aujourd'hui, il y a.
Tu connais le proverbe. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Mais c'est, enfin, mon propos, si tu veux, c'est il y a une privatisation croissante de beaucoup d'activités société civile au sens large, qui est faite juste parce que les bailleurs de fonds, quand tu reçois une grant, quand ton projet est financé. Ça vient avec, les Américains ou les Anglo-Saxons appellent ça « with strings attached ». Ça veut dire ça vient avec des conditions de dépenses. Bon, tu as déjà un budget prévisionnel, mais après, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es payé par un tel. Dans le cadre de ce projet-là, il y a des choses que tu ne peux pas dire, des choses que tu ne peux pas faire.
Comme quoi ?
Ça dépendra des conditions du bailleur de fonds en question. Il y avait sur des projets, sur un projet que j'avais fait dans une zone de guerre civile, il y avait.
Ah bah ouais, t'es sur Thinkerview, cocotte. Hein.
Next. Ouais, next. Voilà. En Afrique. Bon, c'est vrai que ça informe pas beaucoup étant donné la situation du continent, mais passons. Mais si tu veux, là, le financement. Très grande partie, en majeure partie, était par un gouvernement européen. Et c'était pas vraiment possible de critiquer l'implication de ce pays-là et de sa politique étrangère dans le pays. C'est comme ça.
Donc, Côte d'Ivoire, c'est bien, non ?
Oui.
Un beau pays.
Oui, mais c'était pas Côte d'Ivoire.
Pour revenir.
Je dis guerre civile.
Ouais. Bah.
Oui.
Pour en revenir à Thor, bon, tu sais que j'ai des copains un peu partout, qu'on a des copains un peu partout. Hein, on en connaît. Voilà.
Tu vois, mon petit oreille.
J'en ai certains qui viennent me dire bon, Thor, quand on dévoile certaines choses sur Thor, la fondation Thor, ils n'aiment pas trop. Quoi.
Je sais pas. En fait, si tu veux.
Certains nœuds ou. Certaines bandes passantes qui se trouvent près d'ambassades pour aspirer du trafic ou des choses comme ça. C'est pour toi, ça reste que des ragots, c'est pas des ragots, c'est des on-dit, c'est quoi ?
Écoute, enfin, le problème, si tu veux, est que à partir du moment où tu as une activité connue, où tu as une activité bien identifiée, où tu as pignon sur rue, où tu fais.
Comme toi.
Non, un peu comme toi. Il y a des choses, si tu veux, il y a des compromis à faire.
Nous, on ne fait aucun compromis. Hein.
Mais peut-être, mais d'autres personnes peuvent décider que ce compromis-là n'est pas suffisamment critique pour qu'on ne le fasse pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Tu penses que la Fondation Thor fait des compromis ?
Je.
C'est grave quand même, non ?
Je dis, c'est pas ce que je dis. Enfin, sincèrement, je suis très peu. Je me tiens exprès très peu au courant des problématiques de personnes, entre personnes.
Tu parles de Jacob Applebaum, de sa mère ?
Par exemple, qui est un truc extrêmement clivant pour la communauté, et ce n'est toujours pas fini. Enfin, je veux dire, la communauté au sens très large, elle sera durablement affectée par ce problème-là. Là, il n'y a qu'à voir le film de Laura Poitras sur Wikileaks. Elle a eu une affaire, elle a eu une liaison avec Applebaum, qui est dans le film. Et si tu veux, tu as, outre la guéguerre de réputation, etc., entre Wikileaks et l'équipe de l'Europe with Trace, etc., tu as aussi ce genre de conflit, on va dire, pas d'intérêt, mais des conflits plus interpersonnels qui viennent s'ajouter, en fait, ajouter au
merdier. Est-ce que ces conflits interpersonnels sont instrumentalisés par des puissances extérieures ou des services extérieurs ?
Non, je pense pas. En fait, ce qu'il faut voir avec... Enfin, des problèmes interpersonnels, il y aura, il y en aura toujours, enfin, il y a eu toujours, etc. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est pas tellement que quelqu'un a besoin de l'instrumentaliser, c'est qu'on le fait déjà très bien, nous. Quand les gens commencent à prendre parti, ça clive.
T'as confiance en tort ?
Ah oui. Oui, oui. Enfin...
Tu utilises quoi pour chiffrer tes informations ? Tu chiffres comment ?
Je suis obligée de te dire.
Pas tout de suite, mais on peut commencer par un petit bout.
Ah oui. Ah, tu veux qu'on devienne intime en plus ? Ah, non, mais...
Ok. parlons du Bitcoin. Alors, si tu veux. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on en fait ?
Oh, on le garde précieusement et on attend que ça atteigne les 10 000 balles.
T'en as beaucoup ?
42.
T'as digué un peu ? T'as 42 bitcoins ?
Non, 42 la réponse.
Ah, pardon.
Ça, apprends tes classiques, quoi.
Qu'est-ce que tu penses de l'Ether ?
Ah, j'en ai aussi. Pareil. Achetez maintenant, remerciez-moi plus tard.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une vraie communauté derrière. Il y a énormément de projets qui embarquent, impliquent, utilisent, etc., l'Ether. Par exemple, beaucoup de gens te disent « Oui, mais alors tu comprends, le Bitcoin, c'est du scripting simple, on ne peut pas faire grand-chose, il y a juste une valeur monétaire associée avec, nanana. » Avec l'Ether, t'as tout le reste. Tu as un véhicule, si tu veux, de transactions de toutes sortes et ajoute les smart contracts ou les contrats autonomes à ça. Donc, tu as vraiment un écosystème, on va dire, technique, qui est certes jeune et qui mature encore, mais tu as un écosystème révolutionnaire, si tu veux, technique, qui avec lequel on pourra commencer à faire des trucs intéressants.
Tu crois vraiment à la blockchain ?
Ah, pas à la blockchain, enfin, au blockchain, si tu veux. Parce que la blockchain, bon, c'était le buzz l'an dernier. Hein. Aujourd'hui, il faut que tu te mettes à jour. C'est intelligence artificielle, les robots vont nous envahir, Skynet, tout ça. Tu
veux en parler ?
Non.
Pourquoi ? Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe dans l'université de Manchester ?
Pas spécialement. Tu parles de quoi ?
L'intelligence artificielle. Tu veux qu'on parle de quoi ?
Ah bah je sais pas. Toi, tu m'as dit que tu veux parler sextoys.
Ah non, mais ça sera pour la fin. On parlera sextoys et objets connectés à la fin.
Ah.
Qu'est-ce que tu entends par le deep web ?
Rien. Pour moi, ça ne devrait pas exister.
Qu'est-ce que les gens entendent par le deep web ? Le web non référencé par Google ?
Bien.
On
oui.
est là pour vulgariser. Tu m'as dit que tu étais là pour vulgariser.
Non, mais c'est, si tu veux, ça a été une grande question quand j'ai écrit, parce qu'il y a exactement un paragraphe sur le deep web, parce que c'est une expression que les gens connaissent et que les gens utilisent. Je n'ai pas dit qu'il.
C'est pour ça qu'on l'a mis en titre.
Voilà. Ah non, t'as mis dark web parce que.
Pardon.
Attends. Sinon, je serais pas venue. Tu penses bien. Mais. En fait, si tu veux, sur la page Wikipédia, qui fait office de référence, que tout le monde lit sans la citer, c'est marqué que c'est la partie d'Internet que les moteurs de recherche classiques n'indexent pas. Ce qui était probablement une définition correcte en 2002, en 2017, et en fait, quand les gens commencent à t'expliquer ce qu'ils comprennent d'après la page Wikipédia de ce qu'est le Deep Web, tu te rends compte surtout qu'on n'a jamais expliqué comment fonctionne un moteur de recherche. C'est surtout ça, en fait. Du coup, pour moi, la position que je défends, enfin, que je défendrais, c'est de complètement mettre à la poubelle cette expression-là, qui n'a aucun sens, que oui, il y a certains contenus qui ne sont pas indexables par un moteur de recherche.
Parce qu'on kick les robots qui viennent les indexer, c'est ça ?
Ah, voilà, par exemple, tu vois. Maintenant, là, on attend qu'ils deviennent, tu vois, qu'ils commencent à faire le café, tout ça, enfin, bref. Mais plus sérieusement, en fait, ça n'a aucune réalité technique, au sens où la manière dont fonctionne un moteur de recherche, c'est la manière dont fonctionne un moteur de recherche, point. Et après, tout ce truc-là se mélange très, très vite, de manière très habile et assez impressionnante, assez fascinante, avec un canular parti de 4chan qui parle de iceberg et les...
Il faut que tu expliques le 4chan.
Ah, 4chan.
Si, il va y avoir du noob qui va voir ta vidéo, donc il faut que tu expliques tout de A à Z.
D'accord. Alors, 4chan, c'est un...
C'est là où on perd confiance dans l'humanité.
Mais non, des cons il y a partout, tu sais.
C'était une blague. Hein.
Oui, je sais. 4chan, c'est un forum de discussion. Allez, on va le dire très très vite. Où il y a, comme dans tout forum de discussion, il y a tout plein de gens qui discutent. Et il y a certains recoins de ce forum qui sont pas spécialement pour des âmes sensibles. Où on peut effectivement, si on est un peu trop déprimé, perdre confiance en l'humanité. Voilà. Bon, après, il y a énormément. C'est de là, en fait, qu'est parti Anonymous. Hein, est parti le collectif qui, après, est devenu Anonymous, etc. J'explique. Aujourd'hui, 4chan existe toujours. C'est toujours un forum de discussion, très très moche pour les gens qui sont habitués à des interfaces web super clinquantes, jolies et tout. Donc là, c'est très moche, mais c'est pas grave, parce que en fait, ce qui compte, c'est les échanges entre les gens qui sont pour la plupart qui ne donnent pas leur nom ou leur pseudo. Ce qui fait en fait qu'il y a des échanges où le capital social n'a aucune valeur. C'est-à-dire, on s'en fout réellement de savoir qui tu es.
Ce qui est le plus important, c'est...
C'est le contenu, c'est la teneur de ce que tu racontes. Et donc 4chan était connu comme le repère des tricksters, des clowns, des pranksters, enfin voilà. Cet esprit persiste un tout petit peu encore, hein, si on fouille bien. Et en fait, il y a des années, sur 4chan, quelqu'un a créé cette espèce de désinfographie. Avec un énorme iceberg comme ça, et en expliquant les niveaux d'Internet. Et donc, il y en a, je ne sais plus, il y en a 5 ou 6, avec le plus profond étant le Marianas Web, en référence au fossé de Marianne, qui est le point le plus profond sur Terre. Et donc, le Marianas Web, c'est l'Internet le plus profond. Enfin, voilà. Et donc, ils ont raconté que pour aller dans le Marianas Web, eh ben, il faut un falsigol dérivatif polymère, je ne sais plus quoi, qui est une invention pure et simple. Et les mecs racontent, c'est de l'informatique quantique. Et pas tout le monde en est revenu. C'est un canular, hein. Et donc là, t'as toutes sortes de légendes qui traînent, urbaines, que tu trouverais les archives du docteur Mengele, le tortionnaire en chef des nazis, qu'on trouverait l'emplacement d'Atlantide, de les archives privées du Vatican, enfin voilà. Toutes les légendes possibles et imaginables. Et donc en fait, cette notion de deep web, elle se mêle allègrement avec cette espèce de canular fascinant d'iceberg. Et en gros, beaucoup de gens qui veulent expliquer ou prétendent faire de la vulgarisation vont allègrement mélanger les deux, te raconter que, par exemple, le deep web, c'est le premier niveau en dessous de l'océan, tu vois. Bah, où tu vas, par exemple, trouver de la recherche en mathématiques.
Quand t'entends des politiques qui veulent... réguler l'Internet.
Oui, bah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, tu vois. Non, mais c'était drôle. J'étais à une table ronde à l'ITU, donc Institut International de Télécommunications, à la mi-juin. Et il y avait un garçon, un avocat, qui était à la table ronde avec moi, qui voulait absolument faire une juridiction Darknet. Ah oui, non, c'était magique. Hein, bref. Donc, je lui ai répondu qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, il n'a pas compris la référence. Mais voilà, c'est en fait l'idée que j'essaye de promouvoir avec le livre, entre autres, mais plus largement, c'est que être sur Internet, hein, ce qu'on dit aujourd'hui de manière très courante, c'est une activité aussi quotidienne que boire de l'eau, aller faire ses courses, dormir, faire d'autres choses moins... voilà.
Le beat space, c'est ça.
Voilà. C'est une activité aussi ordinaire que ça. Donc, essayer de réguler certains usages du quotidien par une juridiction particulière...
On interdit bien aux gens de fumer dans les bars.
Oui, d'accord. Très bien. Mais est-ce qu'on interdit pour autant la cigarette ?
Est-ce qu'on interdit le terrorisme sur Internet ?
Tu peux toujours essayer, mais c'est difficile. Enfin,
L'Internet, c'est le terrorisme. C'est un sophisme.
Oh.
Je parle comme un politique.
Ah oui, non, mais là, troll level 42, quoi.
Ah, il faut... Oh.
Mais non.
Alors pourquoi ils le disent tout le temps ? Pourquoi ils disent que l'Internet favorise le terrorisme ? Pourquoi on a fait une loi renseignement ?
Parce qu'il faut un bouc émissaire. Et que quel est le bouc émissaire ? Oh, le cryptage de Telegram.
Le chiffrement.
Non mais attends, je te parle comme une politique.
Ah oui,
excuse-toi. Tu vois, c'est... Et arrête de rigoler. C'est le cryptage de Telegram qui, tu vois, favorise le terrorisme et fait que les gens, automatiquement, ils se réveillent le matin et ils veulent faire péter des bombes artisanales sur les Champs-Élysées. Il faut un bouc émissaire. Et en fait, ce que je recommande aux gens qui nous regardent, de lire un article très concis et très bien écrit de Jeff Mathieu sur Reflet. Qui, si ma mémoire est bonne, s'appelle Chiffrement 2. Les temps paniquent. Qui en fait explique justement ce qui se cache derrière ce genre de rhétorique très anxiogène, très culpabilisante, etc. De un outil technique ou un médium, ou en l'occurrence le chiffrement c'est des maths, crée une activité criminelle extrêmement importante, extrêmement agressive. Donc je vous spoile pas, faudra aller lire. Mais voilà, en gros, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on est en plein milieu de la deuxième crypto-war, enfin la deuxième guerre du chiffrement. La première était dans les années 90, où PGP c'était illégal. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation autre où il y a une mobilisation très générale de la part de tout plein de politiciens et de tout plein de législateurs contre quelque chose qu'ils identifient comme le problème, qui est le chiffrement.
Est-ce que ces gens-là sont mal conseillés ou ils sont mal conseillés à dessein ?
Je pense qu'ils ont des conseillers tout à fait capables. Ouais, mais pas. Je sais que ça sortira pas d'Internet, mais quand même. Non, je pense qu'ils sont bien conseillés. Après, je vais pas spoiler les raisons, mais comme Jeff l'explique, enfin le montre bien dans son article, il y a une stratégie politique derrière.
Qui est laquelle ?
Eh ben attends, j'ai dit, je vais pas spoiler. Vous allez lire. Ah non, mais attends, mais si je fais pas de la pub pour mes potes.
Quand tu vois certains États, comme les États-Unis avec le kill switch, quand tu vois Vladimir Poutine qui veut mettre la fin à Tor, au VPN, à tous les proxys, qui veut, on va dire, mettre la main sur le secret des correspondances, quand tu vois la Chine et son Great Firewall, ça te fait penser à quoi tout ça ? On se dirige vers quoi ? Je contourne. Hein.
Ouais, non, mais vers le mur, quoi. C'est, en fait, je commence un peu à déprimer, sérieusement. Enfin, parce que c'est le type de discussion qu'on avait il y a 5 ans, après Snowden, du coup, où en fait, on essayait d'expliquer aux gens que la censure, ça va. Enfin, je veux dire, il y a des moyens de contourner la censure. ce qui était beaucoup plus dangereux, enfin ce qui l'est toujours, c'est la surveillance. Parce que la surveillance, oui, aujourd'hui, c'est un truc super courant. Tout le monde va dire, ouais, non, mais c'est bon, moi, j'ai rien à cacher, je sais pas quoi. Parce que c'est tellement rentré, notamment post-Snowden, c'est tellement rentré, en fait, dans les consciences, qu'on se rend pas compte comment nos propres comportements...
Ouais. Standardisation de la pensée.
Il y a pas une
conformisation de la pensée.
Il y a une normalisation, si tu veux, ou voilà. Moi, j'appelle, enfin, j'utilise le mot normopathe, mais voilà. Oui, bah, j'aime bien créer des mots.
Il y a neurotypique aussi.
Si tu veux, après, voilà, on n'est pas là pour faire calife à la place du calife ou docteur à la place du docteur. Mais en fait, il y a une vraie problématique de modulation du comportement qui est là par la surveillance, et tu n'as pas de telle pression de normalisation et de rentrage dans le moule qui en fait est exercé par la censure. Parce qu'on sait toujours que sous l'URSS, il y avait les samizdats, tu vois. Tu passais beaucoup de choses sous le manteau et puis basta. Quand tu as la surveillance, si j'avais ce micro-là toute la journée sur moi, 24-24, 7 jours sur 7...
T'as un téléphone portable, non ?
Branché, bah, peut-être, mais c'est différent. Tu vois. Mais si j'avais un micro sur moi, branché sur Internet, un broadcast toute la journée, 7 jours sur 7, il y a beaucoup de choses que je ne dirais pas.
Comme quoi ?
La liste de mes 10 derniers partenaires sexuels ? Ah, je suis désolée, t'es pas parmi eux.
Le top 3, au moins. Le top 3.
Non plus. Mais voilà, non, mais en fait, il y a énormément de choses qu'on ne ferait pas si on savait que quelqu'un, enfin, que n'importe qui, en fait, peut nous entendre à n'importe quel moment. Il y a une notion de fin de l'intimité qui est là et qui, en fait, fait vraiment une véritable pression d'autocensure sur juste beaucoup de gens.
Est-ce que l'autocensure, bah après c'est peut-être pas dans ton domaine de compétence, est-ce que l'autocensure radicalise certains ?
Ça dépend de ce que tu appelles radicaliser. Tu vois, l'autocensure par exemple, moi ça m'a fait quitter certains réseaux sociaux.
Tu t'es radicalisé ?
Je me suis pas radicalisé, mais j'ai pris une décision radicale. Ça dépend vraiment de comment tu définis la radicalisation, mais typiquement, il y a des endroits où, si tu veux, mes interactions étaient juste insupportables, quoi. Sans aucun intérêt, la plupart du temps, des gens qui t'agressent, qui te parlent mal, etc. À un moment donné, tu fais, bon, bah, le bilan, pour moi, il est négatif, je me casse, quoi. Mais c'est une forme d'autocensure.
Tirer où pour éviter de te faire surveiller ?
Ah, bah, j'aimerais bien savoir où, tu vois. Le truc, c'est que comment est-ce que tu évites de te faire surveiller ?
J'ai quelques petites idées.
Oui, non, mais moi aussi, tu vois, la question est que oui, on peut tous se mettre des trucs sur le visage, se mettre des cheveux bizarres, etc. Ok, admettons, pour tromper la reconnaissance faciale, que sais-je.
Ça marche plus, ça, maintenant, avec la vidéosurveillance, ils analysent ton comportement, ton mouvement, les choses
possible,
comme ça.
Possible, mais la pub le fait déjà pour toi, donc, enfin, pour eux, enfin, qui qu'ils soient. Mais t'as une autre problématique qui est... Comment il y a une différence énorme entre anonymité et le fait de ne pas être surveillé. Si je sors dans la rue, j'ai une cagoule sur la tête. Oui, bah tu vas pas reconnaître mon visage. Par contre,
tu risques de te faire tirer dessus. Hein.
Bah je risque de me faire tirer dessus. De toute façon, les gens vont me voir. Donc quand je suis, par contre, je suis anonyme.
Mais est-ce que maintenant,
comment est-ce qu'on se fond dans la foule? Tu vois,
est-ce qu'il faut intoxiquer ou est-ce qu'il faut devenir invisible ? Et est-ce que quand tu deviens invisible, tu deviens d'autant plus visible ?
Ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux acheter les pochettes là qui isolent complètement ton téléphone, ton ordi, sur Amazon ou où tu veux. Ouais, bah c'est cool. Du coup, tu disparais des radars à des endroits particuliers, à des moments particuliers. Ça te fait d'autant plus visible. C'est pour ça que le chiffrement et le fait d'être anonyme sur le web, enfin sur Internet, ça peut te rendre extrêmement remarquable.
Ou
comme utilisateur, ça peut te rendre extrêmement remarquable si tu es rare. D'où, en fait, plus de gens, il y en a qui utilisent ces outils-là, plus il y a une masse critique qui fait que personne ne peut t'en extraire parce que tu as un comportement différent. Mais le problème, si tu veux, c'est comment est-ce que tu établis un comportement classique ? Ça veut dire quoi ? Aller sur Facebook tout le temps avec son vrai nom, cliquer sur des pubs de temps à autre, j'en sais rien, moi. Et en fait, le fait, enfin, plus ça va, avec tous les trackers de toutes sortes qu'on a autour de nous, plus en fait le fait d'être visible sans être identifiable revient à commettre le crime parfait de manière répétée quotidienne. Et ça, je sais pas. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un sache faire ça.
Tu milites pour qu'il y ait une agence de régulation de l'algorithme. On dirait, bon, c'est mal formulé. Un conseil supérieur de comment ils font pour nous traquer, qu'est-ce qu'ils utilisent comme tracker.
Ça existe déjà.
Comment ça s'appelle déjà ?
Il y a la CNIL, il y a le Conseil national du numérique. Enfin, je veux dire.
Est-ce que la CNIL a ouvert l'algo de Google ?
Ah non, mais là, c'est une entreprise privée dont tu parles. Et ça, après, tu
vois. Est-ce qu'on est en train de confier notre vie au privé ?
Non, mais c'est déjà fait.
T'es sûr ?
Ah bah oui.
Est-ce que l'État, du moins ce qu'il en reste, fait quelque chose pour essayer de récupérer ses pouvoirs régaliens ?
Attention, parce que. Après, il y a d'autres questions. Je vais jouer l'avocat du diable, mais est-ce que tu préfères que ce soit l'État qui s'interpose, quitte à ce qu'il récupère certains de ses pouvoirs.
On sent la femme de l'Est hein, quand même là.
Hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non mais enfin il y a une vraie question là-dedans. Tu vois est-ce que tu confierais une partie non négligeable du pouvoir qui est aujourd'hui concentré chez les GAFAM, hein, Google, Amazon, machin, Apple, Facebook, tout ça. Est-ce que tu le confierais à ton État? Je sais pas. Je dis pas que les GAFAM c'est mieux que l'État, ni l'inverse.
Est-ce que tu penses pas que Google est la pointe de diamant de l'État américain pour l'interception de données ?
Oh, parce qu'avec lui, enfin. Non, enfin, je veux dire, il y a suffisamment de manières de collecter de la donnée à caractère personnel et personnel des gens, qui qu'ils soient. Que t'as pas besoin d'un acteur en particulier. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. Là où, si tu veux, on se rend compte des différences d'approche et de ce que ça veut dire d'être le maître d'un moteur de recherche, c'est quand tu regardes la Russie et nous.
C'est qui, nous ?
L'Europe de l'Ouest, on va dire, ou enfin, le monde occidental. En Russie, c'est le seul pays où tu as les équivalents de ce qui existe en réseaux sociaux, un moteur de recherche, etc.
L'index.
Voilà. Mais ça existe et c'est fait maison. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus très très tôt compte que être le gatekeeper, le gardien en fait, des demandes, des questionnements des gens, est un pouvoir juste sans précédent. Et sans commune mesure, quoi.
Ou contrôle de data, contrôle.
Mais c'est même pas une question de contrôle de data. C'est Google, si tu veux, il sait exactement quel doute t'habite.
Le doute t'habite.
Un seul mot. quels sont tes doutes à un moment donné? Parce que au lieu, tu fais plus de mots clés. Tu tapes une vraie question. Dans le truc de recherche. Donc, il y a en fait énormément d'informations, c'est même pas des données, d'informations qui sont collectées comme ça.
Du renseignement.
Si tu veux, mais.
Et la contre-mesure peut être la structure Fink derrière, c'est ça ? Pour influencer des élections.
Par exemple, après, tu peux avoir plein de choses qui sont faites.
C'est quoi la structure Fink pour toi ?
Là ?
La structure Fink.
Ah, la structure Fink, j'ai entendu la structure Fink.
C'est mon accent.
Ah oui, c'est vrai. Juste avant de passer sur ça, on peut parler de plans d'acteurs, de ce qu'ils font, machin. Ce qui me paraît important, si tu veux, dans cette discussion, c'est de parler de ce qu'on appelle le modèle de menace et en fait de savoir contre qui tu veux te protéger. Aujourd'hui, une partie non négligeable des choses qu'on va conseiller aux gens, c'est en ayant en tête, essayer de vous protéger contre la NSA. Voilà, ça, c'est très très ambitieux et en fait, let me break it to you, ça marche pas. Voilà, donc il y a des situations où quand on va te dire chiffre tes mails. Ok, très bien. Tu veux protéger ce contenu-là de qui exactement? Donc il y a vraiment cet aspect-là qui manque d'un nombre non négligeable d'initiatives.
Non, ce n'est pas la fin de Source, loin de là. On a notre quorum en studio maintenant. Je vous laisserai en compagnie de Romilia, de Raina Staboliska, très prochainement sur Peertube. Allez voir sur le site de Thinkerview, thinkerview@thinkerview.video. C'est leur chaîne Peertube. Et vous aurez à ce moment-là l'intégralité des 110 minutes de cette conférence qu'elle a donnée à Thinkerview du sexe au dark web. Et c'est surtout parce que notre quorum de spécialistes généralistes en studio est arrivé. Et j'ai le plaisir de vous présenter donc du Nico, du Peter, du Berio, du Tariroc et du Tirs. Bonsoir, mes amis. Voilà. Tout se passe
Bonsoir.
De votre côté?
Bonsoir.
Si vous avez fort chaud, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Là, pour le moment, le campus est légèrement en mode on se prépare pour le week-end. Parfois, c'est bruyant, hein, vous savez.
Non. Est-ce que c'est la rentrée?
Ouais, c'est la préparation de la deuxième rentrée.
Tout le monde est chaud. Est chaud. Est chaud pour le campus.
Ouais, on est content. Pouette, on va au TD.
Voilà. Ouais.
Donc oui, voilà, ça c'est notre petite vie, université libre, logiciel libre, c'est donc Source qui est aux commandes jusqu'à 19h30. Et nous avions... Ouais, voilà. Mais bon, c'est parce que notre réunion a duré un petit peu plus longtemps que prévu. C'est tout à fait bien, c'était serein, c'était calme, pas de stress. Moi je dis merci les amis, bravo. Non, il nous fallait bien ça.
Une réunion pour campus.
Ouais, ouais, bon... On ne peut pas tout dire non plus, hein. Il y a des surprises à garder, vu qu'on va bientôt fêter nos 40 balais.
Ah oui, quand même. Hein.
Ça ne rajeunit pas.
Alors, les anciens de Source, Tirs et Tariroc, comment vous pourriez briefer ou accueillir nos nouvelles voix, que sont Peter, Berio et Nico?
Lâchez-vous.
Ouais.
On se lâche. Ok. Ça ne veut pas dire pète un coup, hein, mais...
Juste parler dans le micro, ça suffit.
Oui, on va tenter.
Alors, nous avons des représentants des gnuragistes et nous avons un représentant du cercle du Librex qui a la judicieuse idée de faire le lien entre logiciel libre et libre examen.
N'est-ce pas? C'est joli.
Effectivement, on va essayer de un peu développer ce point-là. Mais,
Ah, ton micro à toi, il ne marche pas. Il y a Fredux qui regarde, c'est pourquoi. Réessaye, vas-y.
Test.
Ouais, c'est bon.
Ouais. Ok, oui, du coup, je vais essayer d'un peu développer ça, mais j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble, du lien entre le logiciel libre et le libre examen, après que j'ai défini ce que ça serait, ce que c'est le libre examen.
Mmh. Oh, bah, écoute, on est vendredi soir, hein, donc sois indulgent avec nous-mêmes, mais il n'y a pas de problème, avec plaisir.
Ne t'étonne
si
pas
tu
d'être...
Si tu veux un avis...
Mais surtout, que, voilà, nous sommes voisins, hein, vous habitez en bas. Bon, parfois, quand on fait trop de bruit, je dis taper avec un coup de balai plutôt que d'appeler les flics. Hein.
J'ai fait ça toute la semaine à l'appart.
Déjà, mais...
C'est quand même plus agréable.
Oui, donc, comment verrais-tu le libre examen, alors?
En fait,
Comme ça, on saura comment le
libre examen, c'est un concept, mais nous, on représente le cercle du libre examen, qui est un cercle qui est reconnu par l'ULB et qui prône les valeurs du libre examen. Alors, c'est quoi le libre examen qui est prôné par l'ULB? C'est... Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir passer nos examens librement, mais bien le fait que toutes les questions doivent être examinées de manière libre et émancipée. Et en fait, le Librex, c'est aussi le rejet d'arguments d'autorité. C'est aussi prôner le fait que les membres se conscientisent par la méthode scientifique ou par les débats. Et surtout, le fait que le débat doit être sain. Et on essaye du coup de favoriser une prise de conscience de tous nos membres, ainsi que la communauté estudiantine.
Beau projet.
Wow, oui. Et ça fait 180 ans que ça dure.
Ouais, il a été créé le 14 janvier 1928.
Ah, le cercle lui-même.
Oui, le cercle.
Oui, ouais, mais le refus de l'argument d'autorité, ça, c'est le pilier fondateur de l'ULB il y a 180 ans maintenant.
Effectivement.
Ok. Ah, donc vous êtes un jeune cercle, en fait.
Oui, on est là depuis très peu longtemps. Enfin, oui, depuis
même pas deux siècles.
Ouais. Et ça va, c'est pas trop conceptuel comme notion pour un cercle donc politique. Vous n'êtes pas un cercle folklorique.
On n'est pas un cercle folklorique, mais on n'est pas non plus un cercle. Enfin, on est politique dans le sens où on a un engagement politique, mais on n'est pas lié à un parti. On n'est pas du tout. Une antenne du Parti communiste ou des libéraux.
Un cercle engagé.
Effectivement. Mais du coup, on essaye de débunker et de décapsuler tous les dogmes par lesquels on passe, y compris on essaie d'avoir une sorte d'autocritique, parce que c'est un peu facile de critiquer les autres sans se critiquer soi-même. Mais du coup, voilà, on essaye de faire un peu comme Stallman et de débunker les mythes.
Si, on aime bien se moquer un peu des logiciels propriétaires.
Ouais.
Non, pas du tout.
On est bienveillant. T'as un exemple de débunkage que vous avez fait récemment dans le cercle?
En fait, par exemple, on est en train de faire une enquête qui va probablement. Enfin, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus simplement. On s'est rendu compte il y a peu, durant une discussion que j'ai eue avec un assistant en informatique à l'ULB, qu'en fait. Microsoft avait signé un contrat avec l'ULB concernant tout le réseau de l'ULB et la gestion des données des étudiants, etc. Et du coup, en fait, on pense, en tout cas en tant que libre exaministe, que c'est notre responsabilité de se rendre compte de quels étaient les enjeux de ce contrat, et on va essayer de faire une petite enquête et de la publier dans le journal Médor.
Ah ouais, super.
Ouh, yeah.
Le refus de l'argument d'autorité des GAFAM. On est en plein dedans. Hein.
Mais c'est surtout aussi pour essayer de vaincre le pragmatisme managérial qu'on utilise souvent comme argument pour justifier ce genre de décision. Et du coup, on veut surtout essayer de conscientiser la population, enfin les étudiants, la communauté étudiantine, à ce que c'est le logiciel libre. Parce qu'en fait, quand on ne sait même pas ce que c'est la différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire, c'est un peu compliqué d'expliquer les enjeux et les tenants, les aboutissants du problème.
Et c'est à cet assistant qu'il faudrait en parler ou via le cercle c'est mieux d'atteindre, de toucher directement les étudiants, la grande masse des étudiants qui se sont fait voler leur vie privée.
En fait, le contrat a déjà été signé, du coup c'est un peu compliqué de devoir retourner sur notre décision, mais j'ai discuté avec pas mal de personnes. Pour l'instant, l'enquête est en train de commencer. On n'a pas encore eu l'approbation du journal Médor pour le publier, je tiens quand même à le préciser, parce que si jamais des journalistes de Médor nous écoutent, ils risquent de sauter de leur chaise. Mais du coup, en tout cas, le projet risque de fortement leur intéresser. Et en fait, la discussion est venue parce qu'on parlait de logiciels libres. Et celui-ci m'a dit, oui, en fait, tu sais que l'ULB, maintenant, toutes les données sont stockées sur des serveurs... sous juridiction américaine, et du coup c'est un peu problématique pour la recherche indépendante, et surtout déjà pour une question de souveraineté numérique. Je parle de souveraineté pas spécialement des États, mais aussi des individus, de contrôler leurs propres données. Et du coup voilà, je me rappelle plus de la question, Fredux.
Oui, mais voir si donc le résultat de cette grande investigation est plutôt à l'attention des autorités ou à l'attention de la base des premières victimes.
Mais en fait, j'ai discuté avec pas mal de personnes concernées, dont des admins CIS, enfin des administrateurs système de l'ULB, ainsi qu'à des professeurs, et ils avaient l'air pas tous très chauds d'en discuter.
Même en mode oups, mais ça nous a échappé, quoi.
Certains ont accepté de discuter, mais sous couvert d'anonymat, et parce qu'ils représentaient l'ULB, et que du coup, ils n'avaient pas le droit de prendre position sur des décisions qui avaient déjà été votées par le comité d'administration de l'ULB. Mais je pense que ça va être intéressant, et on va essayer de montrer... surtout si l'ULB se considère comme l'université du libre examen, accepter ce genre de choses, pour moi, c'est totalement inacceptable. Pour moi, il ne faudrait pas qu'on commence à privatiser chaque zone de l'université, parce qu'on risque à ce moment-là d'avoir des problèmes, parce que ce n'est pas qu'une question de logiciel libre et logiciel propriétaire. Par exemple, rien que pour la qualité de la nourriture qu'on mange, si on décide de privatiser la nourriture en déléguant ça à Sodexo parce que ça coûte trop cher, alors que juste à côté, à la VUB, ça marche très très bien. Je pense qu'il y a quand même des problèmes.
Dans la question que vous posez aux administrateurs système qui sont gérant de l'ULB. Est-ce que la question de savoir si leur avis a été pris en considération pour la décision finale a été tenue en compte? Est-ce que ça fait partie de vos questions?
C'était une des questions que je leur ai posées, mais j'ai pas encore. On comptait les prendre un rendez-vous avec eux pour approfondir la question, mais un des administrateurs système m'a expliqué que le comité d'administration hésitait entre deux choix, c'était Microsoft et Google, et que les administrateurs avaient mis leur veto sur Google. Du coup, c'était merci, mais on devait choisir entre Microsoft et Google, c'est un peu compliqué.
Mais la peste et le choléra. Bonjour.
Mais c'est un peu problématique parce qu'en fait, c'est un peu typique. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme avec le service public que l'État décide délibérément de laisser traîner et pourrir pour ensuite utiliser comme argument, mais regardez, ça ne marche pas, il faut privatiser. Mais c'est la même chose avec l'informatique à l'ULB. Je pense qu'il n'y avait que 3 ou 4 administrateurs système qui devaient gérer tout le réseau de l'ULB, ils étaient débordés. Il y avait des failles de sécurité dans le webmail de l'ULB. Mmh. Et en fait, Microsoft est arrivé tranquillement en disant « Mais en fait, on peut vous offrir nos services gratuitement. »
Tel le sauveur.
Enfin, tel le sauveur ou comme... En fait, ils ont carrément utilisé des méthodes de mafia, de racket, parce qu'ils ont décidé de mettre dans leur spam... ça veut dire que lorsqu'on envoie un mail avec son adresse, avec le nom de domaine de l'ULB, vers quelqu'un qui a un compte Outlook, il est automatiquement mis dans les spams. Et donc, les chercheurs sont arrivés en tapant de poing sur la table, en disant, mais oui, mais moi, j'ai besoin de travailler, il faut que je puisse envoyer mes mails et que les gens les reçoivent. Et du coup, c'est un peu comme quand le Corleone vient dans votre épicerie et vous dit qu'il faut vous donner 30%, sinon ça va mal se passer et que votre épicerie ne va plus fonctionner. C'est un peu la même méthode. Et je trouve ça fondamentalement malhonnête et il faudrait débunker ça.
Mmh. Mais bon, avec... l'email qui est un des identifiants uniques au monde, c'est un des points de levier les plus simples pour des mastodontes comme Google ou Microsoft, de simplement, relayer dans les spams les autres fournisseurs de courrier électronique, que ce soit des indépendants qui ont leur petit truc auto-hébergé ou même des universités. Voilà, il suffit de dire « Allez, toi, tu vas dans le spam ».
Et l'administrateur système de l'ULB m'a garanti que l'ULB avait signé un contrat qui nous garantissait le fait que nos données étaient privées et étaient sur un serveur dédié, malgré le Cloud Act américain qui permet aux services américains de forcer, sans que la personne concernée ou l'organisation concernée soit au courant, de récolter toutes les données.
Bien sûr, toute la magie Azure va bien faire la différence entre le continent américain et le continent européen, c'est certain.
Mais si les serveurs sont en Irlande et que, mais je ne sais plus laquelle, du nord ou du sud, avec le Brexit, finalement...
Ne complique pas les sujets.
Non, mais parce qu'avec Microsoft, on peut leur demander à ce moment-là de faire un Brexit flamand et de faire un VUB, et de faire un Brexit... Là, comme ça, nous aussi, le Brexit, l'ULB sort de Microsoft.
Un VUB.
Bah voilà. Mais sinon, un coup de pied de biche des gnuragistes serait peut-être bienvenu.
Mmh. Ouais, ben ça va, on n'est que 3 ou 4 ou 5. Non, madame. Si déjà avant à l'ULB il y avait 3-6 admins qui s'en sortaient pas, je vois pas pourquoi nous on le ferait mieux.
Mmh. C'est pas pour le faire, hein, c'est pour dire ce qu'il faudrait faire. C'est gnuragiste en tant que consultant.
Il faut ne pas utiliser Microsoft.
Voilà, premier rôle de gnuragiste.
Est-ce qu'on peut déjà dire qui c'est les gnuragistes?
Ta 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 ta. Nous avons à ma droite Peter, nous avons à la droite de Peter Nico, nous avons en face de Nico, toi aussi, hein, Terry Rock, t'es gnuragiste ou t'es pas gnuragiste?
C'est au gnuragiste de le dire.
Tu es gnuragiste, et il manque aussi Adrien.
Ouais, il est pas là, c'est vendredi, pour lui c'est dur le vendredi. Ouais.
Ah oui? C'est dur le vendredi pour Adrien?
Bah oui.
Ok.
Ça ne dit pas qui ce que c'est, enfin qu'est-ce que fait, quelle est leur mission, quel est leur objectif.
C'est ni mission ni objectif.
Oui, vas-y.
Gloragiste. C'est en discutant, Nico et moi, tiens, le libre, le système qu'on utilise là, en Linux et en... source libre, pourquoi, comment est-ce qu'on peut ouvrir ça un peu aux
gens, aux associations,
et de se dire, tiens, peut-être on peut fournir, comme dans le lieu, on est quand même 3-4 là.
Le lieu, c'est le ACLAB, qui se situe à Scarbeck, au 46 avenue Princesse Elisabeth. Et donc, c'est là que c'est, le projet est né.
Ouais.
Et bah, tous ceux qui sont autour de la table sont déjà passés là-bas.
Ouais.
Et l'idée, c'est de, ouais, c'est de soutenir le logiciel libre, autant dans l'idée que techniquement. Et donc, soutenir qui ça intéresse d'installer un GNU Linux sur son ordinateur.
Mais pas seulement l'installer, mais aussi dans la durée.
Et comprendre aussi, comprendre comment l'installer. Et...
Ouais, et capter les questions des gens dans le support direct. Capter les questions, comment, et pouvoir retirer là, dire tiens, on fait une après-midi sur un topic spécifique et... À partir de ça.
Et ça permet d'aborder aussi toutes les questions dont tu as parlé juste avant.
De surveillance.
Qui sont liées aussi au logiciel libre. Et donc voilà, ça nous semble très intéressant d'ouvrir ça et de supporter ça un maximum.
Oui, parce que souvent, quand on commence avec une petite question technique, on déborde assez vite sur... Bah, la philosophie qui va avec, et, les questions de société. Il faut reconnaître, je pense, que depuis qu'il y a le RGPD qui est passé, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se poser des questions, ne fût-ce que sur la notion de données personnelles. Et puis, bah, pour ceux et celles qui ont déjà entendu qu'il existait le libre, quand ils passent chez les GNURagistes, il y a un endroit où on peut vraiment avoir des réponses à des questions et faire des choses ensemble pour y passer. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, on espère aussi pouvoir accompagner ceux qui y sont passés sur le logiciel libre et qui ont besoin toujours d'un petit coup de main. Parce qu'il y a, depuis pas mal d'années, il y a déjà des install parties qui se font de manière régulière. Mais est-ce qu'on peut avoir un continuum quand on a un souci et qu'on ne doit pas attendre, on va dire, la fin du mois, si on a un problème au début du mois? Il faut attendre parfois une install partie qui est pas toujours, qui est régulière, mais... Voilà, il faut attendre un peu. Et si on pouvait être là aussi pour être un peu plus disponible, bah, c'est un peu l'idée qui est derrière.
Ou de... Aussi, allez, l'install party, c'est très chouette, mais il faut investir pas mal de ton temps.
Ah oui.
Et là, pas tout le monde a les envies de... Allez.
L'énergie.
Et l'énergie ou les connaissances de passer dedans. Ouais. Et là, avoir un accès facile à quand même une petite équipe qui se présente pour ça.
Mais comment vous essayez de pallier au problème que en fait les gens qui sont pas du tout qui n'adorent pas l'informatique et pour apprendre des choses et qui utilisent juste leur ordinateur comme un outil de travail à apprendre pourquoi c'est important d'utiliser du logiciel libre et les valeurs du libre, comment vous faites à ce moment-là?
Ben moi déjà une première chose, c'est que je me rends compte qu'il y a déjà un déficit de communication par rapport à ça qui est immense. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par des valeurs de gauche, d'émancipation, des valeurs qui sont aussi des valeurs du logiciel libre, mais qui ne savent même pas que ça existe. Donc c'est pour ça que, par exemple, le documentaire de Philippe Borel, La bataille du libre, moi je trouve que c'est une chouette porte d'entrée... pour être sensibilisé, enfin avoir une première approche de ce que c'est. Donc ça, moi, c'est déjà un point. Enfin, quand tu poses cette question, moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de déjà mieux diffuser l'information que le logiciel libre existe.
C'est pour ça qu'on est sur les ondes.
C'est pour ça qu'on est là.
Et sur les streams.
Sur le 92.juin, on a besoin de Lyon.
Ouais, il y a aussi des, si tu veux, on a parlé il y a pas longtemps avec des gens de chez Tactic ASBL et un des retours, c'est que c'est assez ingrat en fait de porter la transformation. Par exemple, d'avoir des gens qui se posent des questions sur le libre mais qui n'y sont pas au quotidien et devoir supporter la transformation, quoi, le passage à un OS libre avec les outils qui sont différents, c'est pas évident si les gens sont pas profondément convaincus qu'il y a une raison, on va dire philosophique derrière. Ça, c'est une des réalités du logiciel libre aussi, c'est que il y a ceux qui sont convaincus, en général, ils sont cordiales, tolérants, acceptants, et puis ils trouvent au final leur repère, à un moment donné ou à un autre, avec les outils. Mais il y a tout un public qui... Peut-être se pose des questions sur pourquoi est-ce que ce serait pas plus mal d'utiliser du Linux ou des LibreOffice et autres. Éventuellement, plus utiliser une Gmail, mais autre chose. Mais dès qu'il y a un souci, il râle vite, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas évident non plus à supporter dans la migration vers le libre, par exemple.
Est-ce que vous pensez que c'est possible de convaincre des gens au logiciel libre avec des arguments pragmatiques? Ou alors, est-ce que c'est impossible de faire du libre sans vision politique ou...
Le libre est une vision politique.
Ouais.
Ça me paraît compliqué de séparer le politique de l'informatique. Tout acte fait sur l'ordinateur est d'office politisé. Aller par facilité dans des outils où on a tout clé en main, sans savoir comment ça marche et sans se tracasser comment le service se rémunère, c'est un choix politique, conscient ou pas conscient. Donc le fait de venir dans le ciel libre, ça impose une première prise de conscience de envers qui je mets ma confiance. Est-ce que la confiance est envers une grosse boîte qui fait énormément de chiffre d'affaires et qui a comme pour seul objectif le ciblage marketing? Où la confiance est mise dans une équipe de développeurs que je ne connais pas spécialement, mais qui fournit un produit que je peux posséder.
Après, moi, j'ai aussi l'impression, depuis le début, qu'il y a plein de gens aussi qui ont une utilisation, écrire du texte, aller un peu sur Internet.
Très banal.
Et donc, j'ai aussi l'impression que pour ces gens-là, le logiciel libre pourrait convenir parfaitement. Donc moi, oui, j'ai plutôt l'impression qu'il y a moyen de convaincre aussi pas mal de gens de passer sur le logiciel libre. Et pas forcément toujours appuyer non plus absolument sur la vision politique. Elle est, de toute manière, elle est là. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une liberté de parole qui fait que chacun parle de ce qui lui semble important, et donc on parle de politique.
J'ai un argument politico-économique par rapport à certaines personnes. Quand on prend l'analogie avec une alimentation saine, une fois qu'on a décidé de donner des carottes à ses enfants qui ne goûtent pas le Roundup, etc. Donc on peut avoir aussi quelque chose de sain pour son ordinateur. Et au niveau politico-économique, je disais que si vous êtes allocataire social, peu importe, chômage, handicapé, pension, et que vous utilisez des logiciels propriétaires, attendez-vous à ce que votre allocation baisse. Parce que ce sont des grosses boîtes qui ont des business plans monstrueux et spécialistes de l'évasion fiscale. Donc elles sont en train de rendre exsangues les économies souveraines de chaque pays, qui elle a donc des citoyens, etc. Donc, ouais, et alors à un moment donné, je vois parfois des gens qui me regardent avec un air effrayé, comme ça, je dis « yes, ça va, j'aurais fait peur ». C'est le vendredi que je dis ça seulement.
Mais après, il y a aussi une forme de lobbying qui est assez invisible et qui est assez... néfaste pour toute la partie du logiciel libre. Je vais prendre juste le cas du mail. Parce que le mail est...
On vient d'en parler.
Un secteur assez...
Problématique.
On parlait tout à l'heure de tous les mails venant de l'ULB qui étaient marqués comme spam. Mais il n'y a pas que pour l'ULB, en fait. Il y a faire en sorte que ces mails soient reçus par les plus grands hébergeurs d'emails dans la boîte de réception et pas dans les spams est une plaie quotidienne. Et vous demanderez à n'importe quel système administrateur de... Est-ce que tu gères toi-même le mail? La première réaction qu'il aura fait, ah non, c'est trop compliqué. Parce que il y a une difficulté et un lobbying à faire auprès de ces gros opérateurs de mail. Donc, en tête, on a du Gmail, on a du Google, on a du Microsoft avec Outlook, Hotmail, etc., MSN, pour ceux qui se rappellent. on a du Yahoo derrière, on a pas mal de gros acteurs de gestion des mails. Ou parce que écrire une adresse mail prend que quelques clics et qu'elle est requise pour utiliser d'autres services de ces compagnies, imposent leur vision de la gestion des mails à l'ensemble de la planète, et qu'il est très très difficile de se faire accepter en tant que tout petit gestionnaire de mails par ces gros mastodontes. Et au plus de personnes qu'il y aura à être sensibilisées sur le mail, c'est déjà une grosse partie de la vie numérique, et on doit y faire attention, et à quitter ces grosses instances, au mieux, on aura de poids vers ces mastodontes. Et là, on prend que le cas du mail, et donc, par exemple, parler aux gens de logiciels libres et de leur faire un peu pressentir que voilà un service propriétaire que vous utilisez quotidiennement, qui a une influence sur la planète, à quel point c'est néfaste.
Oui, quand c'est trop centralisé aussi, ça, du coup, ça bloque tout le monde et ça diminue la singularité. Et puis,
il y a un effet pervers qui est des gens qui n'ont pas spécialement beaucoup de temps et ne veulent pas mettre d'efforts se disent, c'est pas grave, je vais prendre une adresse Gmail parce que je sais que ça va marcher. Et ils vont faire leur entreprise dessus, ils vont faire plein de choses. Je veux dire, la vie est identique pour d'autres.
C'est terrible hein, parce que, par exemple, dans le cadre du projet La Brique Internet, en Belgique, en tout cas, on se repose sur le VPN de Neutrinet. Je sais que, puisque j'ai un des administrateurs ici à côté de moi qui a suivi les bonnes procédures pour avoir les adresses IP qui sont, par exemple, enregistrées convenablement chez Microsoft. Donc voilà, on est d'accord d'accepter vos contrats, tout ça. Il y a quand même les gens qui ont comme retour de... Je me garde quand même ma boîte Gmail parce que je me rends bien compte que, de temps en temps, je ne sais pas faire autrement. Et donc si là on n'est pas face à justement une espèce d'argument d'autorité mais omniprésent, fallacieux, enfin je sais pas trop, enfin c'est limite dégueulasse, où tu ne parviens pas, quand bien même tu as déjà ton propre serveur, quand bien même tu as une adresse IP fixe, quand bien même tout est fait dans les règles de l'art, tu te dois de garder une adresse pour usage professionnel usage entre guillemets sérieux. Il y a quelque chose qui va pas là, tu vois, c'est un truc très pourri ça.
Mais du coup, stratégiquement parlant, quelle est la meilleure option? Alors, on fait une conversion, on essaie de convaincre politiquement les personnes pour qu'elles passent libres, ou alors on essaie de vaincre Google et Microsoft par l'efficacité du logiciel, comme le prônent les utilisateurs de l'open source et pas du libre.
Ça, c'est une question qui mériterait bien peut-être un moment de réflexion avec un morceau de musique que Peter vous avait amené sur une clé USB, là, tu vois, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord.
Faire un petit break, puisqu'il fait soif hein, aussi. Hein? Et hop là.
C'est Yao, un gars qui fait Super Collider ici à Bruxelles.
Super Collider, wow.
Ouais, qui fait du live coding.
Ah ouais, donc c'est de la musique faite sans clavier, sans guitare, sans rien, juste...
Avec clavier, avec clavier AZERTY, quoi. Ordi, hein, AZERTY, ou QWERTY, je sais pas.
QWERTY, ouais.
Ou Vapor, soyons polis.
Ou QWERTZU, ou quoi.
Ouais. Écoute, on va laisser un peu en fond comme ça pour lui faire hommage quand même, mais vu qu'on arrive tout doucement vers le dernier carton de notre belle émission et qu'à 19h30 on passe l'antenne à Hip Hop Pop Pop, voilà, on pouvait voir avec Terry Rockwee, tu me faisais un clin d'œil tout à l'heure.
Mais là, juste pour un peu rebondir sur la question des mails, de savoir par quel bout prendre, j'ai pas vraiment la réponse. Je pense.
Merde.
Je pense.
On a loupé notre source aujourd'hui.
Déjà,
là.
que sensibiliser un maximum de personnes pour que ça remonte au niveau politique, pour que ça, qu'on puisse avoir de l'influence et faire des consortiums de gens qui ont, gèrent eux-mêmes leurs mails et commencent à taper un peu ce, du point de la table.
Et déjà dans FOSDEM, la conférence Free Open Source, il faut un peu chercher déjà le free. Allez, quand tu vois les sponsors,
c'est Google.
C'est les grandes boîtes.
Ouais.
C'est
Microsoft.
Qu'est-ce qu'on donne comme image, c'est ça.
Et en fait, la conversion politique, elle est lente. Et elle n'est même pas sûre de pouvoir converger à un point où on convertit tout le monde aux raisons politiques ou philosophiques d'adhérer au logiciel libre. Du coup, qu'est-ce que vous répondez à des gens qui sont plus pragmatiques? Par exemple, ceux qui sont pour l'open source et qui disent, mais en fait, on va pas convaincre les gens d'utiliser d'aller sur du libre, mais on va les forcer à aller sur nos logiciels parce qu'ils sont meilleurs. Parce qu'en fait, on va battre les logiciels propriétaires parce que les méthodes de collaboration de l'open source sont plus efficaces, les logiciels sont mieux maintenus, sont de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Juste pour reprendre encore une fois le mail, tous les protocoles qui ont permis de limiter le spam et de mettre en place des mécanismes de reconnaissance, de légitimité de serveur, voilà, pour limiter le spam, sont des RFC complètement écrites en collaboration avec tout le monde. Elles sont libres. Je suis pas sûr que le terme libre est correct. En tout cas,
le protocole, ouais, oui, ok.
Voilà. Donc, ça démontre bien que quand on met tous les acteurs autour d'une table et qu'on les fait discuter pour voilà comment on va faire pour limiter le spam, parce que c'est ça la grosse lutte, c'est la lutte contre le spam, et derrière ce terme là on va mettre plein de choses. C'est l'équivalent de les lois anti-terrorisme dans le milieu du mail, c'est les lois anti-spam.
Et moi j'ai envie de te répondre que tout est bon. Pourquoi il faut qu'il y a plusieurs portes d'entrée et qu'il faut toutes les utiliser pour convaincre les gens de passer sur le logiciel libre.
Mais le problème avec l'open source, c'est que on prend juste ça, c'est vraiment du pragmatisme. On va prendre les méthodes de collaboration des hackers qui ont été créées par Richard Stallman et autres dans les années 60, et on va l'appliquer au milieu de l'entreprise. Et donc du coup, on aura des logiciels de meilleure qualité, mais on reste dans une logique de production de logiciels et de biens. Et le problème, c'est que ça dilue le message social que Richard Stallman. Richard Stallman, lui, son but, c'était que les utilisateurs soient libres et pas que le logiciel soit très bon, par exemple. Tandis que l'open source, lui, va dire « Ah non, non, notre but principal, c'est l'efficacité du logiciel, c'est parce que c'est avec l'efficacité du logiciel qu'on
ça,
va... »
On comprend que ça ne marche pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas. C'est-à-dire que même si tu as le meilleur des logiciels, si les gens ne suivent pas, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut que qu'il y ait quelque chose qui fonctionne ensemble. Ou alors, on fait comme maintenant, c'est-à-dire que les gens utilisent de la technique sans rien comprendre. Et donc, la vision politique disparaît complètement. Donc là, faut essayer d'avoir quelque chose qui tient ensemble.
La petite image que Framasoft avait utilisée pendant tout un temps, qui était l'image du village gaulois. Il y avait une carte comme ça avec tous leurs services où il y avait le petit village gaulois duquel rayonnaient petit à petit toutes les instances des différents outils qu'ils mettaient en place sur, je sais pas, c'était la carte de l'Hexagone, enfin de la France à l'époque. Quand bien même il y a des ambitions politiques, moi j'ai vraiment le sentiment que le logiciel libre est dans une position de résistance.
On prend le maquis quand on installe
clairement,
Debian.
Clairement, il y a vraiment, de mon point de vue, un envahisseur qui a des tas d'outils, des tas de ressources pour essayer d'imposer d'une manière ou d'une autre sa vision d'une société numérisée avec des tas de concepts qui sont là en train de s'installer depuis quelques décennies et qui vont très vite, justement, même politiquement, ça va très vite. Et il y a des îlots de développeurs, d'utilisateurs, de traducteurs qui sont là en train de documentalistes qui sont en train de continuer à fournir des logiciels avec une autre philosophie. Et c'est vraiment pour moi le symbole du village de petits résistants face à un omnipotent présent envahisseur. Et je trouvais que Framasoft avait bien tapé avec cette petite symbolique du Astérix et Obélix, et du petit village gaulois. Parce qu'on est là-dedans, en fait. Donc, partir de là pour remonter à espérer que la direction de l'ULB ou le politique belge adhère à la vision du petit village gaulois d'Astérix et Obélix et fasse aussi résistance face à l'envahisseur.
Ça s'est déjà fait. Tu vois, j'ai l'image donc d'endroit où ça s'est bien réalisé. C'était donc l'envahissement par Monsanto de pays comme, je crois que c'était le Burkina Faso ou des endroits pareils, où ils ont vendu leurs semences avec leurs super engrais, machin. Ça n'a pas marché. Les paysans ont foutu Monsanto dehors. Parce que les promesses n'étaient pas là. Leur blé était pourri. Bon.
Voilà. Ouais, mais là, on touche à de l'alimentation. C'est quand même. Voilà. Ici, on est dans une sphère, un peu complexe quand même, numérique, qui est pas toujours très palpable pour le quidam. L'alimentation, si tu l'as pas dans ton assiette ou si tu sais bien que tu dois te saigner les veines pour pouvoir acheter un sac de graines pour l'année prochaine, c'est concret, c'est clair. Dans le monde du numérique, c'est beaucoup plus complexe et sournois.
Déjà qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens la différence qu'il y a entre l'open source et le logiciel libre.
Mais déjà faire la différence entre propriétaire et libre et open source, c'est déjà pas simple. Mais au sein même du libre et open source, faire la distinction entre open source et libre. Tu imagines l'effort intellectuel, bonjour le travail du libre examen, pour décortiquer tout le travail auprès du Quidam, pour commencer à se prendre dans la tronche que tous les jours il bouffe un logiciel de merde qui l'espionne et que le seul remède qu'il a, c'est commencer à réfléchir. Allez, debout tout le monde.
Surtout pas le vendredi.
On en est là. Je veux dire, le logiciel libre, c'est de la résistance. Il y a un envahisseur, clairement, le capitalisme de la surveillance. Il envahit les poches de tout le monde. Les gens qui contribuent au logiciel libre et open source, qui utilisent le logiciel libre et open source, qui traduisent le logiciel libre et open source, qui le documentent, qui en font la promotion, c'est des résistants. C'est rien de plus c'est des résistants.
Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire en disant peut-être que toi,
et résistante.
Toi, tu fais la synthèse justement entre le libre examen et le logiciel libre. Ce que je veux dire, c'est que le logiciel libre n'est pas tout seul sur la planète. Il y a plein d'autres gens dans d'autres champs qui se rendent compte de ce dont on est en train de parler.
Effectivement, parce que...
En philosophie, en sociologie, en économie, dans plein d'autres champs, il y a des gens qui ont un discours qui pourrait être similaire.
En fait, au libre-examen, on essaye déjà de se conscientiser à la question du libre, et de pourquoi, en tant que libre-exaministe, c'est important qu'on défende les valeurs du logiciel libre. Et on veut essayer de retourner le panoptique sur les gens qui nous gouvernent et pas sur nous. Mais c'est un peu compliqué parce qu'ils ont plus d'argent, plus de pouvoir et plus de moyens de pression que nous. Mais plus simplement, on essaye aussi de débunker dans l'esprit des gens le dogme du logiciel propriétaire. Pourquoi en fait le but, ce n'est pas uniquement l'efficacité, mais d'abord ta liberté. Parce que il y a aussi un des problèmes du logiciel propriétaire, c'est le fait qu'on récolte des données personnelles sur les utilisateurs. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le fait qu'on se laisse totalement dominer par le développeur et que... En fait, c'est vraiment de la servitude volontaire, quoi. On choisit, par exemple, d'aller sur iTunes. Et en fait, après, on s'étonne que, iTunes est fermé maintenant. Et je peux plus utiliser iTunes, je suis obligé d'utiliser Apple Music. Et en fait, c'est sur le cloud. Et voilà, c'est terminé, quoi. C'est game over.
Et puis.
DRM malware.
J'ai une petite question. Le libre examen, c'est réservé aux étudiants ou on peut venir.
De l'extérieur.
Quand on n'est pas étudiant.
Est-ce qu'on peut venir maintenant?
Je n'ai pas les clés, parce que. Il y a une différence entre le cercle du libre-examen et le libre-examen. Le libre-examen, c'est.
Oui, je parlais du cercle, évidemment.
Le cercle est un cercle étudiantin. Du coup, tout le monde peut se faire membre. Vous pourrez vous faire membre aussi. Mais je ne sais pas si dans les statuts, il est marqué qu'il faut obligatoirement être étudiant pour être membre. En tout cas, pour être membre du bureau, je pense que oui. Mais pour le reste, je ne suis pas sûr.
Ok. Bon, je vous arrache la parole à tous.
Oui.
On va parler barbares.
Vas-y.
Bonjour ami DevOps, SecOps, Admin 6.
Bonjour,
tout ce que vous voulez.
DevOps. Ah, DevOps, j'avais pas entendu.
Développeur, opérateur, ouais, okay. Enfin, voilà. On va juste parler de OSQuery, juste parce que...
OSQuery.
Oh.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un programme qui permet de recevoir des requêtes SQL et de vous donner des infos sur votre système.
Ah oui, c'est la petite minute Terry Rock.
Oui.
Nos amis les bytes.
Donc, concrètement, ça permet de faire de l'inventaire IT, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut l'installer sur un parc de machines et pouvoir récupérer peu importe la machine qu'on a, donc Windows. Oui, accepté. macOS, on réaccepte.
C'est vendredi.
BSD, Linux, et on entend toutes les versions de Linux et ses dérivés. Donc, ça peut permettre ça, donc juste faire un inventaire.
Et smartphone aussi. Ouh.
C'est un Linux.
C'est un outil de surveillance de masse.
Et ça va être aussi considéré comme un outil de surveillance de masse. Ou alors, on peut aussi faire en sorte que une demande, par exemple, liste-moi tous les ports USB qui sont branchés sur cette machine. Tu me le fais toutes les 5 minutes. Et si jamais il y a un périphérique supplémentaire qui a été rajouté, tu m'envoies un petit mail. Voilà. OSQuery permet de faire ce genre de petits gadgets. Donc, pour toutes ces personnes qui sont dans un écran noir avec des caractères blancs ou verts, choisissez vos couleurs.
Ou rose.
Coucou, Thiers.
Oui.
Et que vous aimez bien voir des textes défiler, ça peut être un très très bon outil. Le seul bémol, je ne sais pas si c'est vraiment un bémol, mais ça a été créé par Facebook, rendu à la communauté, membre de l'Unix Foundation. Aujourd'hui.
Il est sous licence compatible GPL ou...
Il est sur GPL 2.
Ah ouais, bah voilà, comme quoi.
Voilà.
Ils savent séduire.
Et voilà, maintenant, donc je redis, c'est OSQuery. Moi, pour l'avoir pratiqué récemment, pour pouvoir justement faire de l'inventaire dans plein d'endroits différents, ça a été un bonheur de différencier.
Et petite question, tu dois installer un client et un démon sur chaque machine ou...
Alors, c'est juste un client sur chaque machine et tu vas te connecter sur ce client pour faire ta requête et recevoir ta réponse. Okay. Il n'y a pas une notion de j'installe un démon sur toutes les machines et j'ai un gros serveur central. C'est, il faut du coup quand même se reconnecter sur chaque machine pour avoir l'information. Ou ça peut être complètement local. Tout à l'heure, je parlais de la commande qui est exécutée à intervalles réguliers, par exemple pour l'exemple des ports USB. C'est complètement local.
Ah oui.
Donc voilà, j'ai fini ma minute.
Waouh, bah dites donc, qu'est-ce qu'on boit là-dessus ? C'est digéré, hein ?
Là, on a tout bu, je crois.
C'est un petit cadeau de Facebook, donc.
C'est un petit cadeau de Facebook, mais il y a quand même une paire d'années maintenant.
Ouais.
Ceci dit, c'est étonnant de la part de Facebook de fournir un outil qui permet d'inventorier absolument tout ce que tu veux sur une machine ou un réseau.
Ouais, tout à fait.
On les reconnaît bien là.
Mais sans doute que c'était pratique pour eux à ce moment-là de pouvoir inventorier les 2 milliards 600 millions de GSM, de smartphones qu'ils avaient dans leur flottille.
Ouais, mais c'est un des paradoxes. Je veux dire, quand tu es administrateur réseau d'une petite entreprise moyenne ou grande ou très grande, la gestion du parc, c'est un truc qui t'arrache les cheveux, quoi. Donc, un peu être au courant de où tu en es, quelles sont les machines qui manquent de RAM, quels sont, les ports USB disponibles. Enfin, c'est tout des trucs qu'au quotidien, ça facilite quand même la tâche des responsables techniques. Et voilà, évidemment, il y a des outils qui sont là pour ça. Et OSQuery, c'en est un autre. Il y avait un autre, OCS Inventory. Il y en a plein, en fait. Mais aujourd'hui, c'est OSQuery.
Allez, chouette, ça vient de sortir, donc. Et c'est en libre.
Disponible sur GitHub.
Les clous registres vont essayer, alors. Ouais, on va mettre OSQuery chez tous les utilisateurs de GNU Linux pour pouvoir à distance savoir s'ils branchent leur truc USB. Ouais, pas trop savoir c'est quoi, mais bon.
Et si le frigo est rempli, hein, avec une IPv6 pour le frigo.
Avec la potion magique des Gaulois, là.
Ouais.
Moi j'ai une petite question concernant GitHub, t'en penses quoi ? Parce que c'est pas été racheté par Microsoft maintenant. Qu'est-ce que tu penses d'avoir du logiciel qui est stocké sur des serveurs de Microsoft ?
Alors, en soi, le fait que le logiciel libre soit hébergé sur du GitHub est un demi-problème, dans le sens où c'est du code qui est complètement libre, que l'historique des modifications est voué à être vu par tout le monde. Ce qui est dérangeant, c'est que du coup, tous les développeurs doivent avoir un compte GitHub, ça, c'est un point dérangeant. Mais que par facilité, on a une forge comme GitHub pour exposer tous ces logiciels sans qu'on soit obligé d'avoir un compte. Ça va, on va accepter. Mais pour moi, le modèle économique de GitHub était déjà très bizarre avant même que Microsoft les rachète. Et effectivement, actuellement, dans pas mal de sphères libres, la question de est-ce qu'on reste chez GitHub, est-ce qu'on va par exemple chez GitLab, qui est une autre forge.
Mais en fait, il ne suffit pas juste d'aller sur gitlab.com. Je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir son propre repository.
Justement, j'allais arriver. C'est, voilà, est-ce qu'on rebascule vers un gitlab.com qui va peut-être aussi avoir la même histoire que GitHub, c'est-à-dire que demain, être acheté par une autre grosse méga-boîte, à l'exception de GitLab, c'est qu'ils vendent un produit derrière. Donc, c'est encore différent pour eux. Ou d'héberger sa propre forge. Je pense qu'héberger sa propre forge est la meilleure solution. Mais ça implique, du coup, pour les développeurs du logiciel libre, une étape supplémentaire pour contribuer, c'est-à-dire qu'il faut repérer la forge du logiciel libre, se faire son compte, et que le coût d'entrée est peut-être un peu plus grand. Mais le coût de liberté est tellement plus grand, je crois que ça en vaut la chandelle.
Waouh.
Waouh. Oui, bah oui.
Quelle belle chandelle.
Ben oui, bah tiens, maintenant qu'on y est, on peut se connecter. Hein, j'ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus, sur les ondes radio du service public fédéral des finances qui permet d'offrir une documentation administrative sur la fiscalité belge. Eh ben, tu peux te connecter à ce service avec ton compte GitHub.
GitHub, ouais, c'est génial.
Puisque c'est Microsoft et qu'il faut un compte Microsoft pour s'y connecter.
Ouais.
Tout le monde s'y retrouve.
Eh bien, c'est très cher à tous. C'était bien fantastique cette version de source à 5 micros. On n'a jamais eu autant de
oui, dit, c'était une belle
pour une fois.
Merci.
Bon,
Fredux,
ok,
merci.
Si effectivement Microsoft est passé piquer les 20 000 adresses mail de l'ULB, on a quand même le cercle Polytech qui a fait rentrer le Reaper Café. Prochaine date pour le Reaper Café, c'est le 29 octobre prochain. C'est en soirée, je crois que c'est de 18h à quelque chose par là. Cercle Polytech. ulb.microsoft.be, comme ça vous savez toutes leurs dates. Et c'est au foyer culturel ici, avenue Paul-Léger. Bon, voilà, c'est un club un peu maison, quoi. Enfin, hacker space.
Venez avec vos aspirateurs, fer à repasser, ouais. Vieux lecteurs cassettes et tout ça.
Lecteurs V-Link, mini-disc,
freezer.
Voilà, que la force du libre soit avec vous.
Le frigo, c'est plus dur, mais.
À bientôt.
À bientôt.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Tu crois que le recteur est la dernière partie du gros intestin ?
Tu crois que le Monténégro est un club échangiste africain ?
Tu crois que la reine Fabiola a le même toiletteur que son chien ?
Pour tout savoir, Radio Campus
92.1.